Chers amis des cellules, bonjour. En cette dernière semaine du temps liturgique, puisque nous avons fêté dimanche la solennité du Christ roi de l'univers, je voulais étudier avec vous le jugement dernier à partir des articles du catéchisme de l'Église catholique du numéro 1038 au numéro 1040. Commençons par la lecture du numéro 1038, je cite. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Alors le Christ viendra dans sa gloire escorté de tous les anges, devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Fin de citation. Relevons deux éléments. Le premier élément est que la résurrection des morts précédera le jugement dernier, et donc que tous les êtres humains, avant que le jugement dernier soit prononcé, au moment où le Christ vient dans la gloire, nous ressusciterons, notre chair ressuscitera, notre âme sera réunie avec notre corps. Notons donc que la résurrection de la chair n'est pas seulement annoncée pour ceux qui partageront la vie du paradis, mais aussi pour ceux qui demeureront dans l'état de l'enfer. Notre destinée éternelle sera vécue dans une humanité complète, corps et âme, corps animé, âme incarnée. Le corps ressuscité sera le lieu de la manifestation de l'état de l'âme. Le lieu où le secret de l'âme se manifeste, se donne à voir, se donne à partager, le lieu où l'état de l'âme trouve sa caisse de résonance, pour prendre une image musicale. Remarquez que nous en avons d'ores et déjà l'intuition, quand la joie de l'âme est ici-bas manifestée par un sourire, manifestée par un chant, ou au contraire l'étonnement par des yeux ronds, ou le fait que nous soyons préoccupés par un froncement de sourcils. Le petit enfant peut sauter de joie sur place. Le corps est manifestation du secret de notre âme, et cette réalité sera pleinement possédée et pleinement explicite en vie éternelle. Lisons maintenant le numéro 1039. C'est face au Christ qui est la vérité que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. S'ensuit une citation d'un sermon de saint Augustin. Je cite « Tout le mal que font les méchants est enregistré. » Et ils ne le savent pas. Le jour où Dieu ne se taira pas, il se tournera vers les mauvais. J'avais, leur dira-t-il, placé sur terre mes petits pauvres pour vous. Moi, leur chef, je trônais dans le ciel à la droite de mon Père, mais sur la terre mes membres avaient faim. Si vous aviez donné à mes membres, ce que vous auriez donné serait parvenu jusqu'à la tête. Quand j'ai placé mes petits pauvres sur la terre, je les ai institués vos commissionnaires pour porter vos bonnes œuvres dans mon trésor. Vous n'avez rien déposé dans leurs mains, c'est pourquoi vous ne possédez rien auprès de moi. » Fin de la citation de saint Augustin et fin du numéro 1039. Là encore, deux éléments peuvent être relevés. Le premier élément, les ultimes conséquences des actes seront dévoilées. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ultime conséquence d'un acte? Eh bien, de façon négative, on pourrait dire que, officiellement, le nazisme s'est éteint en 1945, mais pourtant, nous voyons bien qu'aujourd'hui encore, il existe des néo-nazis. Donc, l'acte de l'invention du nazisme n'a pas cessé de porter des fruits. il continue à porter des fruits terribles jusqu'à nos jours. Les ultimes conséquences des actes seront visibles. J'ai pris un exemple négatif, je peux en prendre un positif. Saint François d'Assise est mort depuis bien longtemps, et pourtant, aujourd'hui encore, existent des franciscains qui font rayonner son esprit, qui font rayonner son œuvre. Et donc, nous découvrirons comment chacun de nos actes s'est inséré soit dans la construction du royaume, soit au contraire a été un obstacle à cette construction du royaume. Le deuxième élément à relever dans ce numéro 1039, c'est que la relation au prochain, finalement, est relation au Christ, au Verbe qui s'est fait chair. Avec cette idée, hein, ce que vous avez fait à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur Jésus. Ce que vous ne leur avez pas fait, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. On voit donc là la profondeur de la force du double commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même, second commandement qui est semblable au premier, mais qui est semblable au premier parce que le Christ s'est fait le prochain de tout homme. Et donc la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de notre prochain est la façon dont concrètement nous nous comportons face au Christ. En entendant cela, on comprend mieux pourquoi au cœur de la foi chrétienne se trouve cette défense de l'être humain. De l'être humain, quelle que soit sa fragilité, et je pourrais même dire de l'être humain en particulier dans sa fragilité. Parce que nous le voyons uni au Christ, nous voyons que le Christ s'est uni à lui. Le christianisme ne peut pas se permettre le regard aveugle sur l'embryon qui n'est pas encore complètement formé, ni même le regard aveugle sur la personne handicapée ou très âgée qui n'a plus la plénitude de ses facultés. Quelle que soit sa fragilité, sa pauvreté, parce que le Verbe a assumé notre nature humaine, chaque être humain demeure lié au Christ. Ce que nous faisons, comment nous nous comportons face à chaque être humain, nous renvoie à notre comportement face au Christ, dévoilera la réalité de notre comportement face au Christ. Au passage, faire du bien à notre prochain, ce n'est pas seulement lui donner du pain quand il a faim ou un vêtement quand il a froid, c'est aussi prendre soin de son intelligence et de son cœur en lui annonçant la plénitude de la bonne nouvelle de Jésus. L'un appelle l'autre, le matériel appelle le spirituel. Je lis le numéro 1040. Le jugement dernier interviendra lors du retour glorieux du Christ. Le Père seul en connaît l'heure et le jour. Lui seul décide de son avènement. Par son Fils Jésus-Christ, il prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous en comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Fin du numéro 1040. Ici, il ne s'agit pas simplement de dire ce qu'on a dit au numéro précédent, donc que l'on connaîtra les conséquences ultimes de chacun des actes, leur portée, on pourrait dire, à travers les âges, mais de voir aussi comment la providence divine et comment la grâce de Dieu ressaisit les actes de l'homme pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Cela signifie qu'il nous sera donné de voir comment la miséricorde de Dieu ressaisit les actes de l'homme pour ouvrir des passages inattendus et magnifiques, là où le dévoiement de la liberté de l'homme aurait dû normalement mettre un point final à l'espérance. Prenons quelques exemples, quelques illustrations dans l'histoire sainte. L'épisode du veau d'or aurait dû marquer la fin de l'alliance et normalement même l'extermination de ce peuple infidèle. Et voilà que cela va devenir l'occasion d'une révélation sur la miséricorde de Dieu, en présentant une démesure entre la justice de Dieu d'un côté et sa miséricorde de l'autre. C'est la première fois que cela apparaît dans le nom de Dieu. Le Seigneur se présente comme le Dieu qui fait miséricorde. Il tient rigueur à 3-4 générations, mais il fait grâce à des milliers de générations. C'est l'épisode de la trahison de Pierre. Pierre le renégat, ça devrait être une tâche immonde dans l'histoire du collège des 12 apôtres. Mais voilà que, par la miséricorde de Dieu, Pierre le renégat est devenu Saint-Pierre. Et donc il devient l'occasion pour celui qui a péché de continuer à espérer et au lieu d'aller se pendre comme Judas, de croire en la miséricorde de Dieu et de croire que Dieu peut ouvrir pour lui un chemin de sainteté. Quand on voit Saint-Pierre, on comprend que Jésus a eu raison de faire grâce à Pierre le renégat. C'est une chose qui est présente jusqu'à nos jours, lorsque l'on entend parfois de grands témoins qui parlent de leur conversion. On est touché de ce passage d'une vie ennemie de Dieu à une vie pleinement dans l'Alliance. On peut remarquer que cette notion culmine dans l'exultète que nous chantons à la vigile pascale lorsque nous disons « Heureuse faute qui nous valut pareil rédempteur » en parlant de la faute d'Adam. À première vue, cette exclamation est à se taper la tête contre un mur, parce que comment dire heureuse faute d'Adam, cette faute qui nous valut l'entrée de la mort, de la souffrance dans le monde, qui nous valut la jalousie, qui nous valut les guerres, qui nous valut la Shoah, tout cela, ce sont quand même les conséquences du péché d'Adam. Comment peut-on oser dire heureuse faute? Eh bien, on peut la dire du côté de Dieu, du côté de la fin de l'histoire, parce qu'elle nous a valu la rédemption dans le Christ. Du point de vue de la fin de l'histoire, quand on voit la lumière qu'apporte la rédemption par le Christ, le dévoilement de l'amour que le Christ fait par sa mort et sa résurrection, alors on arrive à dire « heureuse faute qui nous valut pareil rédempteur ». Car l'histoire ressaisit dans la miséricorde du Christ mort et ressuscité pour nous, nous fait saisir que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand on découvre la plénitude du salut que Dieu nous a accordé, on se dit finalement qu'il avait raison de prendre le risque de la création et le risque de la création de l'homme créé libre à son image en vue de sa ressemblance. Je termine avec le numéro 1041. Je cite « Le message du jugement dernier appelle à la conversion pendant que Dieu donne encore aux hommes le temps favorable, le temps du salut. Il inspire la sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du royaume de Dieu. Il annonce la bienheureuse espérance du retour du Seigneur qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru. » Fin de la citation. Là encore, relevons deux choses. La première, c'est que l'annonce du jugement dernier, de la venue dans la gloire du Christ Jésus, est une annonce qui nous amène à nous préparer. C'est nous dire « Préparez-vous, il y aura un moment où vous devrez rendre compte de vos actes, il est encore temps de vous convertir, mais il y a un temps où il ne sera plus temps. » Nous recevons donc une exhortation à être prêts. Nous ne sommes pas pris au dépourvu. Deuxièmement, comment comprendre la phrase « Le retour du Seigneur qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru ?» En effet, ça peut nous sembler un peu prétentieux si quelqu'un disait « Je viens parmi vous pour être glorifié en vous, je viens parmi vous pour être admiré en vous. On vous regardera et on m'admirera moi. » Alors ne le comprenons pas sur le mode de la vanité du chef d'équipe qui ferait porter à tous les membres de l'équipe un t-shirt à son effigie. comprenons-le plutôt à l'image de ce que nous pouvons déjà éprouver en regardant un enfant et en trouvant en son visage les traits ressemblants de ses parents. Il y a une joie, il y a une fierté d'évoquer dans ses propres traits les traits du parent aimé. Tu as le nez de ton père, tu as les yeux de ta mère, tu as le sourire de ton grand-père, tu as les doigts de ta grand-mère. Il y a à la fois une composition unique du visage de l'enfant et pourtant un rappel, une évocation, une ressemblance avec celui dont il a reçu la vie. La joie de Dieu, la gloire de Dieu, c'est quand notre vie évoque la vie de Jésus. Ou si on peut aimer une image musicale, c'est quand la musique de notre vie rappelle, évoque la musique de la vie du Christ. Assurément, chaque être humain comme un instrument a son propre timbre, mais justement, il peut jouer avec son propre timbre la musique du Christ en vivant de cette charité du Christ qui en est reconnaissable. Comme un même morceau joué par un violon ou par une clarinette demeure reconnaissable. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être quatre choses en particulier. La première, c'est que nous accueillerons le jugement dernier avec notre corps ressuscité. La deuxième, c'est que nous sera dévoilé les ultimes conséquences de chacun de nos actes, leur portée jusqu'au bout. Le troisième, que nous verrons comment à travers nos actes, le plan de Dieu, la providence de Dieu, la miséricorde de Dieu a tracé son chemin et un chemin de salut. Le quatrième point, cette annonce du jugement dernier est un appel à la conversion. C'est maintenant le bon moment pour, avec notre vie, jouer la partition du Christ. Je vous souhaite de bons échanges.